Radio Prague, les informations. Le président Klaus a déclaré qu'il ne confierait pas forcément le soin à Jerzy Parobek de former un nouveau gouvernement si la coalition actuelle n'obtenait pas la confiance du Parlement. Selon une enquête de la Commission européenne, plus de la moitié des Tchèques ne sont pas favorables à l'introduction de l'euro. Et du tennis, enfin, à la veille de Wimbledon, Jan Hernik a été battu en finale du tournoi de Bois-le-Duc. Le président de la République, Václav Klaus, a déclaré que si la coalition gouvernementale constituée du Parti civique démocrate, des chrétiens démocrates et des Verts n'obtenait pas la confiance de la chambre basse du Parlement, cela ne signifiait pas qu'il confierait automatiquement à Jerzy Parobek, leader du Parti social-démocrate et Premier ministre sortant, le soin d'entamer des négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement. Le chef de l'État a ainsi fait savoir que Jerzy Parobek devait arrêter d'envisager un tel cas de figure. Selon une enquête réalisée en avril dernier par la Commission européenne dans le cadre de son rapport sur les préparatifs pour l'élargissement de l'Union monétaire, plus de la moitié des Tchèques ne sont pas favorables à l'abandon de la couronne au profit de l'euro, même si 58% d'entre eux pensent que la monnaie européenne sera introduite en République tchèque en 2010. Selon une information publiée sur le site internet du ministère tchèque des Affaires étrangères, la Société française pour l'information et le perfectionnement des cadres propose des formations en alternance rémunérée dans les services de l'hôtellerie et de la restauration aux jeunes tchèques âgés de 18 à 26 ans. L'annonce s'adresse plus particulièrement à ceux qui se trouvent au début de leur carrière et disposent au moins de quelques bases de français. Les intéressés recevront un contrat de qualification d'un an à Paris ou à Toulouse avec un salaire minimum égal à 65% du SMIC. Rappelons que depuis le mois de mai, la France a procédé à l'ouverture partielle de son marché du travail aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne depuis 2004, dont la République tchèque. En tennis, le Tchèque Jan Hernik s'est incliné samedi en finale du tournoi sur gazon de Bois-le-Duc aux Pays-Bas face au Croate Mario Ancic, 12e joueur mondial en 3-7, 0-6, 7-5, 5-7. Par ailleurs, 12 des 15 joueurs tchèques engagés dans le tableau final de Wimbledon feront leur entrée en lice ce lundi. Deux duels lors du premier tour mettront aux prises des joueurs tchèques. Dans le tableau féminin, Nicole Vajdišová, récente demi-finaliste à Roland-Garros, sera opposée à sa compatriote Klára Kokalová, tandis que chez les hommes, Jan Hernik affrontera Tomáš Berdych, tête de série numéro 13. Météo, lundi jour de la fête des Adriana, le ciel est couvert avec des risques d'averses et d'orages. Les températures varient entre 13 et 17 degrés pour les minimales et entre 27 et 31 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Ah,
culture sans frontières. Magda Segertova. Očima sněhem zaváté, duši má chladný stín, rampouchem srdce prokláté, studený na dlani mráz, ledový klín. Slunce svit marně útočí.
Merci d'écouter Culture sans frontières. Des sacs à main à ceinture en plastique, de petites robes très chics, des jupes à mi-cuisses, des fossiles. Cela vous dit quelque chose? Et oui, nous allons parler aujourd'hui de la révolution vestimentaire des années 1960, mais pas seulement. Le musée de la Bohème centrale de Roztoké, à une dizaine de kilomètres de Prague, organise jusqu'au 15 octobre prochain une exposition mettant à l'honneur la mode, le design et tout le style de vie dans les années 60. Nous y jetterons un coup d'œil tout en écoutant quelques tubes tchèques de l'époque. Dans la seconde partie de ce magazine, il sera question de la culture culinaire. En ce début de la saison touristique, nous ferons le tour des tavernes pragoises. Známý tu louny
My jsme měli sérii výstav, kde jsme se zabývali různými výraznými historickými obdobími jako Art Deco a
Nous avons organisé par le passé plusieurs expositions sur des styles qui ont marqué l'histoire, comme l'art déco par exemple. Puis nous nous sommes dit pourquoi ne pas revenir sur les années 60, puisque ceux qui les ont vécues en gardent les meilleurs souvenirs. Nous avons commencé par les années 1950 avec une mode très féminine, genre taille de guêpe, jupe bouffante avec jupon. Petit à petit, cette mode s'est transformée en un style jeune, trendy, qui est en vogue même aujourd'hui. Ce sont toutes ces mini-jupes plates popularisées par le mannequin Twiggy, sa silhouette plate. La mode des années 60 a été très variée et elle est toujours en évolution.
Byla rozmanitá a byla ve vývoji ta moda.
Rappelle Ilona Klemšová, ethnologue au musée de la Bohème orientale de Pardubice, qui a concocté en premier l'exposition sur les années 60, cette même exposition qui est à voir actuellement à Roztoky dans la région pragoise. Au château de Roztoky donc, nous voilà devant de magnifiques robes, tailleurs, souliers et accessoires. La silhouette est simple et ô combien élégante. Mais plutôt qu'à Jacqueline Kennedy ou Brigitte Bardot, ces tenues nous font penser aux femmes endimanchées que l'on pouvait croiser dans la rue, dans un café de Pardubice ou en train de se promener sur la place Venceslas. Ilona Klemšová confirme ce que l'on soupçonne en regardant ces vêtements de près. Ils étaient portés par des femmes réelles et ont leur propre histoire. Si seulement ces robes pouvaient parler.
Tous les objets exposés ici à Roztoky font partie des collections de notre musée et j'ai commencé moi-même à les rassembler au cours des années 1990. Ces robes appartenaient pour la plupart à deux dames originaires de Pardubice. Elles s'habillaient chez des couturiers locaux et aussi dans des salons pragois. Elles étaient charmantes, minces et avaient du goût. Ce qu'elles portaient avait du style. On voit de prime abord qu'il ne s'agit ni de tailleurs bricolés à la maison ni du prêt-à-porter ordinaire. Ces deux femmes-là voulaient tout simplement être belles pour bien représenter leur mari.
Les années 60 dans l'ancienne Tchécoslovaquie, ce sont aussi des accessoires en plastique aux couleurs pastel, très in à l'époque, des sacs en filet, chic et pratique, des magnétos à bandes, les premiers robots de cuisine et le fameux sèche-cheveux pistolet dont certaines ménagères ont toujours du mal à se séparer. Les meubles, c'est un chapitre à part. Les commissaires de l'exposition ont aménagé à Roztoky un véritable living. Là encore, rien d'artificiel. On a très envie de se poser sur ce sofa aux couleurs un brun fané, d'allumer cette superbe lampe fleur, design culte des années 60. Tous ces meubles proviennent d'ailleurs de successions vacantes non réclamées.
Kde je tvůj mužný půvab styl, ač tak se snažíš ze všech sil. Kdeže ty loňské sně jsou, já žasnu nad tvou proměnou. Vysoké čelo, češ jak chceš tu progresivní pleš, pod křivkou panovačných úst, teď vidím druhou bradu růst. Divím se, když se dovídám, že prý máš jiskru, vtip a šarm. Za dveřmi necháš všechen švih, na kouči usneš v pantoflích. A já, a pak z dlouhé chvíle snad, mohu ti plomby počítat. Ty jsi byl, ach, člověk by se smál, můj ideál, můj ideál.
Le style de vie adopté à la fin des années 50 et au cours de la décennie suivante se traduit par l'utilisation de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques dans la mode, dans le design, dans l'art tout court, mais aussi dans la fabrication industrielle. Après l'Expo 58 de Bruxelles, on parlera du style bruxellois, basé sur asymétrie, légèreté, mouvement et couleurs unies. Un style dont les plasticiens tchèques sont devenus les maîtres incontestés, comme l'affirme Evokšen du musée de Pardubice.
Vlastně už celé třeba celá expozice česká na Expo 58, kde velikou částí bylo samozřejmě.
Le pavillon tchèque à l'Expo 58 de Bruxelles, qui fut notamment une vitrine de l'artisanat national, a remporté un succès fou. Mais avant cela, le verre et le design industriel tchèque avaient déjà été applaudis à la Triennale de Milan en 1957. N'oublions pas que les verriers avaient un gros avantage par rapport aux autres plasticiens. Leur art fut considéré, même par les autorités d'alors, comme apolitique. Rien ne les empêchait donc de créer librement et de se faire une renommée internationale. Progressivement, elles se sont détachées de la production industrielle pour se lancer dans leur création originale. On peut dire, sans exagérer, qu'en matière de création industrielle, les Tchèques ont fait figure de pionniers, puis de l'élite mondiale.
Les travaux de František Tejml, Vladimír Kopecký, Dana Vachtová et d'autres verriers tchèques renommés sont donc à découvrir jusqu'à la mi-octobre au château de Roztoké. N'oublions pas non plus la céramique et la porcelaine. Un nom pour tous, Jitka Forejtová, dont les statuettes de danseuses de ballet, inspirées de la ballerine Marta Drotnerová, décorent aujourd'hui encore certains foyers tchèques. Je vous passe maintenant un tube des années 60 que l'on a retrouvé dans le film Pelišky, un des plus gros succès du cinéma tchèque après la révolution de velours.
Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátu plán. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá.
Culture sans frontières.
Quelles sont les surprises culinaires qui attendent les palais français en arrivant à Prague? Vous le saurez en suivant Emmanuel Jamédequet dans les tavernes de Prague, où l'on peut déguster les spécialités tchèques, savoureuses le plus souvent et copieuses toujours.
Le gros avantage en Tchéquie, c'est que l'on peut manger à toute heure de la journée. Il y a toujours une hospoda pour vous accueillir et vous permettre d'étancher vos petites faims. Le plus difficile pour vous sera sans doute de trouver un restaurant qui propose des spécialités nationales. Car aujourd'hui à Prague, entre les pizzerias, les paratapas ou les fast-foods asiatiques, il est de moins en moins évident de dénicher des mets bien tchèques. Cependant, dans la jungle des spaghettis, risotto et autres tacos, nous voici enfin dans une vraie taverne pragoise, à l'enseigne d'une marque de bière locale comme il se doit. Il vous faudra tout d'abord choisir votre boisson. Et si vous n'êtes pas amateur de bière, cela s'annonce bien mal, et surtout ruineux pour vous, car un verre d'eau minérale coûte en général plus cher qu'une bonne chope de bière, la carafe d'eau municipale n'existant malheureusement pas ici. Vous pourrez toujours vous rabattre sur la kofola, qui n'est autre que la version tchèque, et sans doute meilleure, du célèbre soda au cola américain, ou encore tester un verre de vin morave ou de grog à la pomme. Il est temps maintenant de se plonger dans le menu, qui est heureusement disponible en anglais la plupart du temps. Le repas tchèque typique commence en général par une soupe. On en trouve de très bonnes et assez dépaysantes, avec par exemple la soupe au lard et aux haricots. Il existe assez peu d'entrées comme on peut en connaître en France, mis à part le jambon de Prague ou quelques poissons fumés. Gardons donc un peu d'appétit pour le plat de résistance, qui est toujours servi en quantité généreuse. Les Tchèques sont assez friands de bœuf aux ailes ou de rôti de porc farci au jambon et au fromage. voire plus étrangement, de poulet aux pêches. Si vous aimez le poisson, ce sera plutôt truite ou carpe. Il faut dire que la mer est assez loin. Les plats vous seront servis avec du chou sous toutes ses formes, parfois quelques crudités. Concombres, tomates, carottes, et bien sûr, un vrai repas tchèque ne serait pas complet sans les knedlíky, ces délicieuses quenelles de pain ou de pommes de terre que l'on peut même déguster en dessert fourré à la confiture. S'il vous reste encore un peu de place, ce qui est loin d'être sûr, une petite note sucrée sera la bienvenue pour finir en beauté ce repas typique. Vous pourrez déguster du strudel aux pommes ou aux graines de pavot. Mais le dessert à la mode en ce moment semble être les crêpes, que l'on appelle ici crêpes françaises et que l'on sert copieusement noyées sous la chantilly, avec de la glace vanille. Comme quoi, les liens franco-tchèques se tissent d'abord du bout de la fourchette. Fin de Culture sans frontières sur les ondes de Radio Prague. Magdalena Segertova vous remercie de votre attention. Bonne écoute de la suite de notre programme.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Jarka Gregorova.
La Suisse tchéco-saxonne est bien une région au nord-ouest de la Bohême et pas en Suisse. C'est une ville de rochers spectaculaires, tout comme Tiskastiani, qui se trouve à proximité. Les formations rocheuses rappellent un peu les Alpes suisses, d'où vient probablement le nom de ces sites naturels. Ce sont des endroits romantiques, magiques, et qui valent vraiment la peine d'être visités. Mais il y a aussi le côté négatif. Ces lieux fabuleux se trouvent dans la région d'Oustina de la Bohême, une ville possédant une tradition fortement industrielle. En premier lieu, il s'agit surtout de l'extraction de minerais, de combustibles fossiles et de leur transformation. L'extraction a évidemment provoqué une forte pollution. Cela a d'ailleurs été un grave problème dans toutes les villes du nord de la Bohême, telles que Chomutov, Litvinov, Most, Liberec, Jablonec et bien d'autres. La forte pollution s'est répercutée non seulement sur les forêts et l'agriculture en général, mais également sur la santé des habitants de cette région. Il est à noter que sous le régime totalitaire, le respect de l'environnement et la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail, conformément aux normes internationales, n'étaient pas toujours respectés. Heureusement, après la révolution de velours de 1989, la situation a commencé à s'améliorer. Au fil des ans, le gouvernement a pris plusieurs décisions importantes. Le ministère de l'Environnement et le Fonds du patrimoine national ont émis deux arrêtés d'application pour éliminer les anciennes charges écologiques. Le procédé s'est effectué et s'effectue en plusieurs étapes, englobant par exemple l'élaboration d'une analyse des risques écologiques, la mise en œuvre de l'assainissement et de l'élimination des dégâts écologiques par l'intermédiaire des moyens financiers du Fonds du patrimoine national et par des entreprises sélectionnées suite à un appel d'offres public, etc. À titre d'illustration, la société Géotest Breno Société par Action est depuis 1993 centrée sur des projets d'élimination des anciens dégâts écologiques. Cette société a entre autres traité l'assainissement de différentes entreprises, importantes bien évidemment, comme par exemple celui de l'usine Škoda Mladá Boleslav ou des tôleries de Friedek Mistek. Évidemment, une contamination des sols en métaux lourds persiste toujours, ainsi que celle due aux résidus pétroliers. Thank you. Au cours des dernières années, la région d'Ustina nad Labem a subi une stagnation prononcée. À l'heure actuelle, l'économie se porte assez bien. Pourtant, il est vrai que c'est la région dont le taux de chômage est des plus élevés en République tchèque. Ce fait découle surtout de la fermeture des mines, un problème qui, à son époque, a également touché la France et la Belgique. Afin de résoudre ce problème, il est nécessaire d'adapter l'industrie à la qualification de la main-d'œuvre. D'ailleurs, un programme de requalification de la population a été mis en place. La région d'Ustina nad Labem peut puiser des moyens financiers provenant du programme de Czech Invest d'aide aux zones industrielles afin d'investir dans la modernisation des infrastructures obsolètes. Cette région invite à des investissements intéressants, ce qui est prouvé par la présence prononcée d'investisseurs français. Citons par exemple Severočeské vodovody, centré sur le traitement et la distribution de l'eau, Dalkia, société par action, chaufferie d'Ustina nad Labem, Severočeská plynárenská, également société par action, industrie gazière, Lafarge Cement, bâtiment et construction. Le château Kamen a été construit au XIVe siècle. Perché sur un rocher, à la frontière entre la Moravie et la Bohême, le château gardait la route qui menait jusqu'à Prague. La dernière reconstruction date du début du XIXe siècle. Le château est une bâtisse romantique et charmante, parfaitement accessible au public. L'histoire tragique que je vais vous raconter, chers auditeurs, se passe au Moyen-Âge. Le seigneur du château Kamen avait trois filles. Toutes les trois étaient célibataires. L'aînée était plutôt laide et ne plaisait à personne. La seconde était jolie et avait beaucoup d'admirateurs. Pourtant, aucun ne voulait l'épouser, car c'était une femme facile et pas très sérieuse. La cadette était une jeune fille charmante et agréable. Le père ressentait pour ses trois filles le même sentiment. Ainsi, il n'arrivait pas à se décider comment partager ses biens. Comme il n'avait rédigé aucun testament, le jour où il mourut, les trois sœurs se retrouvèrent avec un héritage qu'elles ne savaient trop comment partager. Les deux aînées se disputaient sans pour autant trouver de solution. La cadette brodait tranquillement dans son coin. Depuis près de 2 ans, elle était fiancée à un gentil chevalier. Les jeunes gens s'aimaient et voulaient se marier. La jeune fille aurait tout de même aimé apporter à son bien-aimé une petite dot. Alors, elle attendait la décision de ses sœurs. Finalement, s'apercevant que les deux sœurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord, la cadette proposa de planter 3 tilleuls dans le pré devant le château. Celle qui verra son tilleul fleurir, le premier, deviendra propriétaire du château. Les deux sœurs apprécièrent l'idée. Par contre, l'aînée décida que toutes les trois devaient rester célibataires pendant 3 ans, période de croissance des tilleuls. Les deux autres étaient un peu ennuyées, mais n'avaient pas le choix. Les deux sœurs aînées, jalouses de la cadette, lui interdirent également de fréquenter son fiancé. La cadette était très malheureuse, d'autant plus qu'elle était obligée d'écrire à son cher chevalier qu'elle ne pouvait pas le voir pendant 3 ans sans donner d'explication. Quelques semaines plus tard, la cadette annonça à ses sœurs qu'elle attendait un enfant et les supplia de la laisser partir. Elle était prête à renoncer à sa part de l'héritage. Les deux sœurs refusèrent net. Elles enfermèrent la pauvre jeune fille dans une chambre isolée et lui apportaient elle-même à manger. Personne n'était au courant de l'état de la cadette. Pendant ce temps, les deux sœurs arrosaient les 2 tilleuls, mais pas le 3e. Évidemment, le tilleul périt. Lorsque l'enfant naquit, les deux furies l'assassinèrent. La jeune mère hurlait comme une aliénée menaçant de porter plainte auprès du tribunal royal. Prise de panique, les deux aînés assassinèrent également la cadette. La nuit, le corps de la pauvre fille fut enterré sous le tilleul. Une semaine plus tard, le tilleul mort poussa en un magnifique arbre. Les deux sœurs essayèrent de le faire abattre, déraciner, mais l'arbre tenait bon. Et la fin de l'histoire ? Les deux femmes continuèrent à se disputer l'héritage. Les serviteurs découragés s'enfuirent du château. Et au fil des ans, les deux sœurs sombrèrent dans la folie et moururent seules dans le château abandonné. Plus tard, on a construit sur le pré où poussaient les trois tilleuls une église et un cimetière. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention. Restez en contact avec nous. Écrivez-nous.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.